Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Plus que deux semaines avant l'élection présidentielle, deux semaines pour faire le choix de celui qui conduira la France dans les cinq prochaines années, fera les réformes promises, mais aussi donnera le « là » de la vision qu'il a de la société et de l'homme. Or, s'il y a un sujet qui a été peu abordé pendant ces élections, ce sont justement les sujets de société. Après la loi sur le mariage pour tous, les esprits ne semblent pas prêts à nouveau à ces affrontements qui ont divisé la France. Pourtant, les sujets de société ne sont pas absents des programmes des candidats, loin s'en faut. Explication. Voilà donc cette troisième émission spéciale Vivante Église, donc à l'occasion des élections présidentielles, sur le thème aujourd'hui, donc « Quelles valeurs communes dans la société française ?» Avec autour du plateau Grégoire Jahan, vous êtes responsable d'Alliance Vita 31, bonjour.
Bonjour.
Alors Alliance Vita, je présente tout de suite et puis vous compléterez peut-être un petit peu plus tard, c'est donc un mouvement, on va dire, pro-vie, qui est présent un peu partout en France et dont la figure de proue est donc Tugdual Derville, qui a été connue dans certains milieux et qui a été connue à l'occasion de la Manif pour tous, puisque c'était un de ses principaux représentants. Jean-Michel Punière, vous êtes psychologue et membre de l'association Contact 31, bonjour.
Bonjour.
Alors, Contact, c'est une association, je fais les présentations, hein. Contact, c'est donc une association qui favorise le dialogue, association familiale qui favorise le dialogue entre les familles et les personnes homosexuelles. Vous nous direz un peu plus loin, peut-être dans l'émission, plus d'éléments sur cette association. Docteur Jean-Claude Mazzon, aussi autour du plateau, qui est neuropsychiatre à Toulouse. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et François de Monet, donc qui est en première année à l'EJT. Donc, bonjour François.
Bonjour.
École de journalisme partenaire de cette série d'émissions. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et puis, s'il y a des présentations complémentaires à faire, on les fera au fur et à mesure. Première thématique de campagne dont j'aimerais parler avec vous dans cette première partie, c'est la question du mariage homosexuel, de la PMA. Donc PMA, c'est la procréation médicalement assistée, et la GPA, gestation pour autrui. En tout cas, c'est le terme générique qui est proposé aujourd'hui. Sur le mariage homosexuel, je cite 2-3 chiffres donc sur ce débat qui a divisé une partie de la France, puisque même un certain nombre de candidats l'ont reconnu, Emmanuel Macron entre autres. Donc le mariage homosexuel qui en 2013 a concerné 7367 personnes, en 2014 à peu près 10 000 personnes et en 2015 8000 unions. Toujours est-il que la loi Taubira a été votée en France. Mais les différents candidats ont des positions contradictoires. Alors, je lance la discussion. François Fillon, est lui pour la réécriture de la loi Taubira et pour, entre autres, la modification des modifications autour de l'adoption plénière. Marine Le Pen est pour l'abrogation également et pour un PACS amélioré. Puis référendum. En tout cas, c'est les deux abrogatifs, on va dire, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est pour une union civile. Alors, on commence avec vous, Jean-Michel Punière, pardon. Est-ce que ça vous inquiète, du coup ? Ça fait quand même deux candidats sur les trois principaux qui sont pour l'abrogation de la loi Taubira.
Mais ça peut être... Je trouve inquiétant de revenir, d'avoir eu de pareilles idées, entre guillemets, de vouloir abroger cette loi. Je ne pense pas que ça se fasse, parce que, en fait, il y a déjà beaucoup de personnes, donc vous l'avez rappelé, qui se sont mariées. On imagine un petit peu ce que peuvent vivre dans leur chair ces personnes qui, pour certains ou certaines, attendaient depuis des années. Moi, je connais des personnes, par exemple, qui étaient depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois en couple, et qui se sont mariées. Qui donc, pour eux, bien sûr, c'est très important. Je vois mal comment on pourrait leur dire tout d'un coup « Ah non, vous n'êtes plus mariés ».
Alors, je précise quand même qu'il y a un certain nombre de candidats, entre autres François Fillon, qui dit que pour la réécriture de la loi, mais que ça n'annulera pas, ça ne sera pas rétroactif. Donc,
ça paraît complexe.
C'est pourtant clair. C'est abrogation de la loi, mais qui n'autoriserait plus, en fait, les mariages, mais qui ne reviendrait pas sur ceux qui auraient lieu.
J'entends bien. Fait symboliquement, on imagine bien, ce serait complexe dans une société d'avoir des personnes qui auraient pu être mariées à un moment donné. D'un point de vue de deux personnes de même sexe et que tout d'un coup ça serait plus possible. Je ne pense pas que la société accepterait ça. Voilà, donc je ne suis pas trop inquiet de ce point de vue, mais par contre, oui, je trouve étonnant voilà, que les candidats puissent revenir là-dessus, alors que la société a beaucoup bougé et qu'il y a pu avoir des débats qui sont intéressants, y compris avec les personnes qui ne sont pas favorables au mariage pour tous, et qu'on peut, on peut discuter là-dessus, mais voilà, je trouve ça très radical comme position.
Alors, on va justement discuter, on est là pour ça. Peut-être Grégoire Jean, une première réaction autour de cette abrogation de la Taubira. J'imagine que vous n'avez pas tout à fait le même point de vue.
Non, alors pas tout à fait le même point de vue, mais déjà, en fait, ce qui est important de voir, c'est que la loi dite du mariage pour tous a été bâtie sur des confusions sur ce qu'était le mariage. Au moment du passage de la loi, en 2013, il y avait des sondages, alors on sait quoi, qu'il faut faire plus ou moins confiance aux sondages, mais qui montraient vraiment une France fracturée, et aussi sur la compréhension du mariage. En fait, dans les sondages parus juste avant le passage de la loi Taubira, une majorité était contre l'adoption et le mariage pour tous. Or, l'adoption découlait nécessairement du mariage pour tous. Et ça, les Français n'en voulaient pas à l'époque. Il y a des choses qui évoluent, le but n'est pas forcément de faire une dictature de la démocratie, mais en revanche, c'est ça aussi qui a été incompris et qui fait que le débat a été mal posé. Il n'était pas question...
Qu'est-ce qui a été mal compris sur le moment ? C'est que ça ouvrait, en fait, à l'adoption plénière, c'est ça ?
À l'adoption, quelle qu'elle soit. L'adoption simple ou l'adoption plénière est finalement c'est une mesure symbolique, mais qui aura peu d'influence sur ce plan-là. Mais en revanche, c'est vrai que du coup, on a présenté le mariage, l'institution du mariage, comme l'amour entre deux personnes. Or, si ça l'est d'une manière symbolique, d'un point de vue de l'institution, c'est un contrat entre deux personnes et une institution qui était liée. Donc c'est vrai qu'il y avait une erreur, ça a beaucoup joué sur les mots. Je pense que ce débat a été aussi assez intéressant puisque ça a été le moyen d'avoir des réflexions. Justement, je rejoins ce que disait la personne qui a parlé juste avant moi.
Jean-Michel Pugnier.
Voilà, excusez-moi, Jean-Michel.
Vous voulez dire qu'en tout cas, ça a permis aux uns et aux autres de réfléchir
profondément. De réfléchir profondément aussi sur qui est l'homme et quelle vision de la société on veut avec.
Donc, en tout cas, vous, évidemment, on imagine que vous êtes plutôt favorable à l'abrogation. C'est ce que demande Alliance Vita, non ?
C'est-à-dire que Alliance Vita ne demande rien aux candidats. En revanche, pour l'instant, on est en train de faire un statut sur ce que proposent les candidats. Mais on pense que justement, le mariage est fondé sur l'altérité sexuelle, homme et femme, et que l'adoption doit être pour ces couples-là.
Voilà. Alors quand vous dites, vous parlez donc de l'élection présidentielle, vous avez fourni à l'occasion de cette élection un baromètre politique de la prise d'opposition des différents candidats, où en fait en une page vous dites quelle est votre position,
ouais,
c'est ça ?
Tout à fait. Alors on a créé un site qui s'appelle Présidentiel 2017 Alliance Vita, avec un baromètre, ce qu'on a appelé le baromètre biopolitique, puisque on évalue les candidats sur les critères dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire dans les domaines de société et dans les domaines liés à la bioéthique. Puisqu'Alliance Vita ne se réduit pas à la discussion sur le mariage pour tous. Et juste petit aparté, justement, Alliance Vita n'est pas la Manif pour tous. C'est deux associations qui sont en parallèle, chacune ayant leur position, parfois qui se retrouvent sur le sujet, par exemple, de la PMA ou de la GPA, mais qui vivent différemment. C'est un petit aparté.
Voilà. Sur ce sujet, Docteur Jean-Claude Madzen, est-ce que vous avez une réaction, une position
J'ai une position personnelle, puisque je ne fais pas partie, en tant que scientifique, de ce type d'association qui discute de l'aspect symbolique du mariage et de l'accès. Nous, ce qui nous embarrasse, ce qui m'embarrasse, c'est l'accès à l'adoption, c'est l'accès à la filiation. C'est-à-dire que je pense et je ressens comme extrêmement régressif les mouvements sociaux actuels, c'est-à-dire que régressif au sens psychologique, c'est-à-dire que on devient très infantile, très puéril par beaucoup de côtés, et qu'on abandonne effectivement la fonction paternelle et le rôle du père dans la société et dans l'éducation des enfants.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?
Je veux dire par là que lorsqu'on essaie de mettre en place des relais symboliques de l'amour entre deux personnes de même sexe, le père devient absent. On ne sait plus où il est. Et en particulier dans le registre des relations filiales, où est le père ? Voilà, et en plus c'est symbolique un petit peu cette situation-là, où le père comme tiers séparateur est totalement absent.
Même dans le cas de couple homosexuel homme, vous pensez que c'est...
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il... Où est l'identification paternelle dans ce registre-là ? Comment peut-on, en quelque sorte, vivre et faire vivre à un enfant l'indifférenciation sexuelle. C'est-à-dire qu'un homme avec un autre homme, ça fait un enfant, vraiment. Et ça peut donner un modèle identificatoire. Ça peut permettre que, justement, l'édification psychique ne va pas se faire dans de bonnes conditions. Et puis, ce n'est pas une espèce d'impression, comment dire, formelle. On voit des enfants qui sont dans ce contexte-là, qui le vivent, et pour lesquels les choses ne se passent pas au mieux de leur intérêt.
Alors, Jean-Michel Plunière, je vous fais laisser réagir. Je précise donc sur ce sujet, et puis après on passera à un autre, que les autres candidats sont évidemment, s'ils ne se prononcent pas dans leur programme de campagne, c'est qu'ils sont en faveur de, comment dire, du mariage pour tous, et donc en l'occurrence aussi donc de l'adoption. Je précise juste que Emmanuel Macron s'est distingué. Donc entre autres, à la tête du mouvement En Marche, en ayant un mot à l'égard de la Manif pour tous, on sait que ça n'a pas été le cas de tous, loin s'en faut, disant que les adversaires de la Manif pour tous avaient été humiliés à l'occasion donc des grandes manifestations.
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon aussi ont fait un mot dans des interviews récemment.
Autant pour moi. Jean-Michel Plunière, vous avez une réaction à ce qu'a dit docteur Jean-Claude Mazzone.
Oui, tout à fait. En fait, on confond souvent la question de l'altérité et puis de la différence des sexes. On en avait parlé lors récemment, on avait été invité par la pastorale des familles à un débat sur la question de l'homosexualité.
La pastorale des familles du diocèse de Toulouse.
Tout à fait. Et il y avait une sœur qui a justement très bien présenté cette question, qui était experte dans ce domaine et qui expliquait qu'il y avait eu une confusion entre ces deux aspects. On peut très bien trouver l'altérité dans un couple, quel qu'il soit, y compris des personnes de même sexe, bien sûr, puisque on ne se réduit pas au fait d'être, comme on appelle, un homme ou une femme, et qu'on va trouver chacun de nous des aspects féminins, masculins et des aspects qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler la fonction paternelle ou maternelle. Je partage également ce point de vue d'un point de vue de psychologue. Quoi,
hein. Alors attendez, excusez-moi, mais si je peux me permettre quand même, si être religieuse a probablement dit que l'altérité ne se limitait pas à la différence sexuelle, mais je doute qu'elle ait nié que l'altérité était tenait entre autres à la différenciation sexuelle. C'est-à-dire que pour vous...
Personne ne nie ça, bien sûr.
Il n'y a pas de lien en fait entre...
On peut trouver l'altérité dans un couple homosexuel, et donc de ce point de vue on peut dire que je ne vois pas où est le problème de ce point de vue sur la question de... Je ne comprends pas exactement où il pouvait y avoir de la confusion dans ensuite ce qu'on pourrait appeler être un père ou une mère, quoi. C'est, voilà. Par exemple, ce qui va faire sens pour l'enfant, c'est plutôt ce qu'il vit. Je veux dire, par exemple, nous avons dans l'association des parents qui ont donc une fille qui est homosexuelle, qui s'en est rendu compte à 28 ans. Et cette fille, disons, quand elle a dit à ses parents, c'est leur fille unique et ils espéraient avoir des petits-enfants, et ils se sont dit à ce moment-là, nous n'aurons pas de petits-enfants, parce que c'était dans leur représentation. Bon, finalement, cette fille a eu un enfant, et il se trouve que l'enfant a maintenant 5 ans, bon, et les parents le voient grandir et finalement trouvent que c'est beaucoup plus simple qu'ils ne l'avaient imaginé, parce que cet enfant, bon, évolue tout à fait heureusement, et à un moment donné...
Et cette femme est en couple ?
Oui, tout à fait. Cette femme est en couple avec une autre femme. Et à un moment donné, à l'école, il a rencontré un enfant qui avait deux papas, lui. Et ça lui a paru étrange. Il a dit, c'est bizarre quand même. Il trouvait étrange d'avoir deux papas. D'avoir deux mamans, c'était tout à fait logique pour lui. C'est ce qu'il vivait. Et il connaissait d'autres élèves qui avaient un papa et une maman. Mais d'avoir deux papas, parce qu'il ne connaissait pas cette situation. Voilà, c'est l'occasion d'en discuter dans la famille. Mais ce qui va faire sens, c'est ce qui existe réellement pour les personnes.
Alors, docteur Jean-Claude Mazzone, est-ce que ce qui fait sens, c'est ce qui existe pour les personnes, ou en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui préexiste en fait à ce que le contexte dans lequel les enfants sont et qui est nécessaire à la croissance de l'enfant ?
Non, mais le problème de l'altérité, comme ça a été présenté par M. Plunière, me paraît toujours très étonnant. Les problèmes identificatoires, c'est quoi ?
Allez-y, continuez.
Le problème identificatoire, évidemment, ne se réduit pas à l'altérité. Vous êtes d'accord ?
Ben oui.
Ben oui. Alors, il se trouve qu'effectivement, en profondeur, nous sommes constitués d'un côté homme, d'un côté femme, la bisexualité psychique, on en a parlé, on en a glosé, afin de pouvoir, faire correspondre les besoins des homosexuels à une espèce de nécessité psychique interne. C'est pareil, il n'y a pas de problème. Or, c'est totalement évidemment faux. L'identité ne se réduit pas en quelque sorte des histoires d'amour, des histoires de reconnaissance de l'autre. Ça, l'autre, c'est autre chose. Mais la reconnaissance des sexes et de sa différence, c'est une chose beaucoup plus profonde que ce que vous indiquez. C'est pas simplement le recours à l'altérité. Et profondément, l'homme qui se construit dans l'homosexualité n'aura pas le recours habituel de ce que l'homme sera quand il se ressent dans la masculinité. Parce qu'en définitive, un homosexuel ne reconnaît pas et discrimine la société en deux. Pour les femmes, évidemment, l'homme, ça ne peut pas exister, et c'est ce qui fait le recours au PMA. Et pour les hommes, la femme ne peut pas exister. On ne peut pas avoir de relations intimes, profondes, dans lesquelles on s'inscrit dans un acte, comment dire, sexuel, sexué.
Alors, je vous propose qu'on avance peut-être, et puis vous continuerez ce débat à la faveur de, comment dire, des autres positions sur la procréation médicalement assistée, donc qui est, enfin, c'est entre autres ce sur quoi a alerté le mouvement La Manif pour tous au moment de la loi Taubira, disant que c'était un peu la suite naturelle. Alors, de fait, c'est présent dans le programme de campagne de pas mal de candidats. Il faut rappeler que, déjà, François Hollande en avait parlé lors de la précédente campagne, même si ça n'a pas été fait. Benoît Hamon, donc, se dit favorable donc, au recours à la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de femmes. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon, pareil pour Emmanuel Macron. Et François Fillon, lui, est contre, ainsi que Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, voilà, qui, elle, comme les deux précédemment cités, indique que la procréation médicalement assistée doit rester une unique réponse, une seule réponse au problème d'infertilité. Peut-être est-ce que vous pouvez, Jean-Claude Madson, parce que vous nous disiez en préparant l'émission que vous avez participé à l'ouverture du SECOS Toulouse, vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une PMA, quel est le cadre légal aujourd'hui, et donc qu'est-ce que ça changerait si, par exemple, Emmanuel Macron est élu ?
L'ouverture ou l'entrée de patients dans le cadre d'une PMA est ouvert par l'infertilité ou la stérilité d'un des membres du couple. Si effectivement l'infertilité est soignable, il y a des techniques qui permettent d'améliorer cette fertilité, et on peut procéder, dans le cadre des PMA, ce qu'on appelle une intra-utérine, enfin faire des procédés mécaniques un peu substitutifs pour parvenir à ce que une grossesse advienne. Pour les cas de stérilité, là, il n'y a pas d'autre recours que de faire appel à des gamètes donneurs. Chez les hommes, donc, un donneur homme, du sperme de donneur, et chez les femmes, des ovocytes. Les femmes ont ouvert la procédure depuis peu de temps, parce que l'ovocyte est une cellule difficile à congeler, enfin, difficile à se procurer aussi, puisqu'il faut faire une intervention pour que la donneuse puisse donner ses ovocytes. Ça ne va pas sans risque, puisqu'il y a des... Enfin, bref, il y a beaucoup de choses compliquées. Chez l'homme, ça paraît plus simple, et ça l'est effectivement, sauf qu'on a très très peu de donneurs, hommes ou femmes. Et que quand les politiques se mêlent de faire de la politique de bisounours ou de la destruction, de la destructivité de la différence des sexes, évidemment, la PMA, pourquoi pas, sauf qu'ils ne savent pas qu'on n'a pas de donneurs.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par une politique de bisounours ? Parce que là, peut être une attaque à nominem, mais c'est pas forcément un argument.
Non, c'est pas un argument, c'est ce que nous ressentons d'une espèce de compassionnel, actif et dynamique qui font que ces gens homosexuels qui souffrent de n'avoir pas d'enfants, mais il faut le leur autoriser, il faut le leur permettre.
Ça, on a compris. Mais
oui, non, mais justement, cette politique.
Quels sont les arguments que vous avancez contre dans ces cas-là ?
C'est parce que nous avons défini un cadre de travail par rapport à l'insémination avec donneur, par exemple, puisque c'est la plus ancienne, dans lequel le don est éthique, c'est-à-dire qu'il est gratuit, qu'il est anonyme, et que les conditions d'application de ces pratiques sont soumises à des limites d'âge pour l'homme, 55 ans, pour la femme, 45 ans, de différence d'âge entre les membres du couple d'une quinzaine à vingtaine d'années. On essaye de respecter justement les générations.
Attends, excusez-moi, là on a compris le cadre, mais du coup, quel est l'argument que vous avancez pour que ça ne soit pas élargi aux femmes seules ou aux couples de femmes ?
Parce qu'on reste dans un domaine médical, pur, c'est tout.
Grégoire Jahan, sur ce sujet, quelle est la position d'Alliance Vita ?
Sur ce sujet, ce qui est important, c'est en fait de se placer du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans... En fait, avec la PMA sans père, on se retrouve sur un désir d'enfant qui, s'il est très respectable, ne doit pas forcément être assouvi. Parce qu'il faut voir quel est le bien de l'enfant. En faisant une PMA sans père, en décidant d'ouvrir ces PMA aux femmes seules ou aux femmes homosexuelles, aux couples de femmes homosexuelles, on a le risque de développer ce droit à l'enfant et non pas ce droit de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va créer
c'était
directement...
C'est une des grandes distinctions de la manif pour tous.
C'est ça, c'est ça, justement. Et en fait, on a une distinction qui est importante, c'est-à-dire qu'on crée, dans le cadre d'une PMA, on crée directement une injustice liée à cet enfant qui ne connaîtra pas son père.
Puisqu'il faut rappeler que les donneurs sont anonymes en France.
Tout à fait, mais même en dehors, c'est-à-dire qu'on le prive directement de son père qui lui... de son père biologique. Et donc ça, on crée finalement une différence entre les enfants, et c'était déjà aussi le cas sur le problème de l'adoption dont je n'avais pas eu le temps de parler juste avant. C'est le fait que l'adoption, il y a une injustice qui est créée quelque part par l'abandon, par le fait d'être orphelin, et là on reconstruit les repères par un couple. Et dernier point, le mariage homosexuel, en effet, la suite logique de la loi Taubira, c'est cette ouverture vers la PMA, car on sait bien qu'il y a un désir d'enfant qui est dans ces couples homosexuels, qui est encore une fois très respectable, mais qu'il n'y a pas assez d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants à adopter en France. Il n'y en a pas assez. Il y a, je crois, 20 000 couples qui sont en demande d'adoption pour 4 000 adoptés. Mais donc, la difficulté, c'est justement comment on va créer ces enfants. Et ça, pour nous, c'est non.
Alors, Jean-Michel Punière, je salue déjà, je vous remercie quand même d'avoir eu le courage de venir ce matin, parce que ce n'est pas un débat habituel à cette antenne. Et donc, évidemment, merci. On vous écoute avec attention pour lancer peut-être votre réaction. Est-ce que vous entendez les arguments qui sont avancés, donc entre autres par Alliance Vita, qui dit qu'il y a là une injustice, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on va priver potentiellement un enfant de son père, alors que de toute façon, il y a forcément un père biologique.
J'entends, bien sûr, c'est intéressant d'en parler. Pour moi, il y a une confusion souvent, ça dépasse largement ce cadre de l'action de la PMA et des homosexuels, entre géniteur et parent. Pour moi, un parent, c'est quelqu'un qui va donc élever et protéger un enfant. Voilà, et par exemple, il y a des personnes dans un cadre de où des gens ont des enfants par la voie tout à fait naturelle où ils ne sont pas du tout dans ce rôle de parents. Je me souviens d'un débat à Bordeaux à l'UDAF sur la question justement du mariage pour tous où une personne disait ah oui, mais c'est quand même si on n'a pas un enfant de son sang, c'est pas comme si on n'est pas des vrais parents entre guillemets. Et c'est pas un parent de même qualité.
Mais alors là vous faites la distinction entre parenté sociale et parenté biologique, c'est la grande distinction qui est faite justement par les mouvements
homosexuels. C'est ça que j'appelle différence entre parents et géniteurs.
Est-ce qu'un parent, c'est pas les deux en fait ? Est-ce que c'est pas un parent biologique et un parent social, tout simplement ? Est-ce qu'on peut choisir l'un et nier l'autre ?
Justement, c'était ce que j'étais en train de dire. Une personne qui, elle, avait été adoptée, une personne qui avait un âge assez avancé, a été très choquée par rapport à ça parce qu'elle disait, pour moi, mes parents, ils sont tout à fait aussi vrais parents. C'est des parents tout aussi valeureux, importants et entièrement parents que si c'était des parents qui avaient été des parents de mon sang, quoi. Voilà, donc il y avait cet aspect-là. Mais moi, avant par rapport à ça, bon, ça c'est par rapport à ce que disait donc Monsieur Jean, mais sinon j'étais surtout choqué, ce qu'on a dit précédemment, donc Monsieur Madzon, par rapport aux homosexuels et les différents fantasmes personnels, je dirais, que j'ai pu entendre là-dessus. Pour moi, ça correspondait à des préjugés, des jugements de valeur qui me rappellent un peu le fait que avant, je vous ai écouté sans vous interrompre, parce que ça m'a, j'ai eu un sentiment d'étrangeté par rapport à ça.
Alors attendez, juste jusqu'en
1990, l'homosexualité était considérée par l'OMS comme une maladie mentale, ce qui n'a pas été le cas de toutes les époques, bien évidemment, et j'ai eu l'impression un petit peu de presque revenir à cette période, donc ça m'a un petit peu interpellé, voilà.
Alors attendez, juste pour essayer quand même de conduire à peu près le débat, moi j'ai pas entendu, peut-être vous avez interprété comme ça, mais j'ai pas entendu que M. Madzon ait dit que l'homosexualité était une maladie mentale.
Non, M. Madzon n'a pas dit ça, non. Voilà. Donc, mais il disait que...
Parlons de choses précises, si je peux me permettre. Okay. Sur la PMA, est-ce que vous pouvez juste me dire, pour répondre à ma question qui en fait est à ce qu'avait relevé Grégoire Jean, disant que j'ai bien entendu votre distinction entre parenté sociale et parenté biologique, mais quid du père dans la PMA pour des femmes seules ou pour des couples de femmes ?
Ah bien, on en revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que...
Bah, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en fait, la question c'est le père, en fait. C'est,
oui, oui.
C'est semble-t-il ce que disait Grégoire Jean, en tout cas.
Oui, j'entends bien. Mais pour moi, on va trouver, donc, ce qu'on a... Enfin, je crois que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un débat sur qu'est-ce que ça veut dire, père. Parce qu'on fait comme si on était d'accord là-dessus, sur cette représentation. Il peut y avoir plein de façons de... Qu'est-ce que c'est être un père aujourd'hui dans la société ? D'ailleurs, c'est une question qui traverse tout le monde, puisqu'il y en a qui font des stages ou des réflexions là-dessus. Quand on est dans des structures comme les réseaux d'accompagnement à la parentalité, on voit que ce n'est pas si évident. Et je pense que voilà, on va trouver justement dans l'altérité qu'on évoquait tout à l'heure, chez chacun d'entre nous, on va trouver la possibilité de se positionner dans ce qu'on appellerait être père, et je pense qu'on réduit un petit peu les choses. Par exemple, pour être très précis, parce qu'on confond souvent cette question du sexe biologique et puis ensuite de ce qu'est être un homme ou une femme, ou masculin ou féminin. On a fait une expérience où on montre un bébé à des personnes et on leur dit, donc ce bébé, on leur dit tantôt que c'est une fille, tantôt que c'est un garçon, on le voit pas hein, sur la vidéo. Et on demande à des gens, tiens ce bébé, voyez, il pleure, pourquoi d'après vous pleure-t-il ? Et alors, si on dit à ces gens que c'est un petit garçon, les gens disent, ah, c'est un bébé, il est en colère, hein, on voit qu'il n'est pas content. Et si on lui dit que c'est une fille, aux personnes qui regardent, alors il dit, ah, cette petite fille, elle est triste. Donc on va interpréter différemment par rapport à des références purement culturelles, puisque là c'est le même enfant, le fait d'être une fille ou un garçon, c'est ce qu'on appelle le genre, le sexe social, donc, et non pas une théorie. Mais voilà, et donc je crois qu'il y aurait vraiment intérêt à discuter ensemble de ces thèmes, puisque pour moi c'est des choses différentes. Il y a de la diversité, entre guillemets, dans notre société, et non pas ça se réduire à une différence comme ça des sexes simplement.
Alors le genre, on va en parler après, peut-être vous avez une réaction de Dr Jean-Claude Madzon, et puis après on va parler de la gestation pour autrui.
Nous avons dans le cadre de la PMA, dans l'IAD, ça s'appelle l'insémination avec donneur, effectivement fait litière du père biologique. Le père biologique, on l'a banni dans nos conversations. Il y a du biologique, mais il n'y a pas de père. C'est-à-dire que le donneur, c'est un frère de l'homme stérile, celui à qui il va donner le sperme, à charge pour cet homme stérile, d'en faire un enfant s'il le peut avec sa femme. Et donc ce qui nous a préoccupé, c'est pas tant qu'un enfant advienne dans ce couple, mais que cet homme-là puisse parvenir à s'approprier le sperme du donneur et puisse devenir le père de son enfant. C'est en ce sens-là, alors que ça demande beaucoup de difficultés à ces couples qui sont dans une espèce de traumatisme intense, il va falloir un an au moins de délai pour qu'en travaillant avec eux de façon régulière, ils puissent accepter l'introduction de ce tiers et se l'approprier et faire un enfant en commun.
Donc ce que vous nous dites, c'est que même pour une PMA, c'est déjà en fait compliqué d'une certaine manière.
C'est très compliqué. C'est effectivement très compliqué. Parce que ce n'est pas dans le projet.
Il y a un processus psychologique en fait qui est long, c'est ça ?
C'est très long, oui. C'est très long de parvenir justement à s'approprier le sperme d'un copain, un copain symbolique puisque c'est anonyme, qu'ils ne connaîtront jamais, mais dont ils sentent le côté fraternel en quelque sorte du don. Pour réussir en définitive à faire satisfaire leur femme et parvenir à faire un enfant, c'est comment dire ? C'est quelque chose qui est battu en brèche parce qu'il serait l'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes. Parce qu'alors, comment nous faire comprendre, à nous, en général scientifique, que deux femmes, ça peut faire un enfant ensemble ?
Grégoire Jean, et puis après on passe à autre chose, comme ça on vous aura entendu tous les trois sur ces sujets.
Non, je reviens encore sur cette notion d'injustice. Je pense que en effet, il y a des choses qui sont liées à la masculinité et à la féminité qui peuvent être de l'ordre culturel. En revanche, la différence biologique et le corps sexué, il a une influence nécessaire, enfin il a une influence sur ce que nous sommes. Et donc ça c'est un des points. Enfin, sur la PMA, je reprends l'argument de tout à l'heure, c'est on crée finalement un enfant en le privant volontairement de son père. Et c'est ça qui est profondément choquant, et c'est justement en partant de l'enfant, en se disant, pour le désir d'une personne, on va créer un enfant en le privant volontairement de son père. Oui, et c'est ça qui est choquant.
Alors, c'est important que vous disiez qu'on le prive dans le cadre des inséminations entre lesbiennes, dans le cadre d'un couple.
Entre personnes homosexuelles, on va dire.
Voilà. Non, parce que
la question se pose aussi.
La discrimination existe. Les hommes ne peuvent pas avoir recours à la PMA.
Oui, mais on a entendu Grégoire Jean. Enfin bon, chacun a exprimé ses positions sur ce sujet. Alors on avance et puis après on fera peut-être une première pause. puisqu'il y a, alors est-ce que c'est un prolongement naturel, c'est pas sûr, hein, je voudrais pas faire un lien de cause à effet qui n'est pas validé par tout le monde, il y a un autre sujet donc, de l'élection présidentielle qui est la gestation pour autrui. Alors la gestation pour autrui, en même temps je dis un sujet de campagne, vous me corrigerez peut-être François de Monet, mais il me semble qu'en fait tous les candidats sont contre, puisque Jean-Luc Mélenchon est pour la constitutionnalisation de la non-marchandisation du corps, disant que l'amour prime sur le biologique, Benoît Hamon est contre, Emmanuel Macron est contre, Marine Le Pen pareil, Nicolas Dupont-Aignan, etc., etc. La seule différence, et en l'occurrence par exemple chez Emmanuel Macron, c'est donc la reconnaissance de la circulaire Taubira qui a cours aujourd'hui en France, donc qui selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait qu'aujourd'hui la France reconnaît dans l'état civil en fait des enfants qui sont nés de GPA à l'extérieur de la France. Voilà. Et là, il y a certains candidats qui sont pour l'abrogation de cette circulaire Taubira, entre autres donc Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou François Fillon. Est-ce que vous avez des réactions avant qu'on fasse une pause, l'un et l'autre, sur ce sujet, Grégoire Jahan, puisque vous levez le doigt?
Tout à fait. Tout d'abord, en effet, il y a une vraie différence justement avec l'acceptation de la circulaire Taubira. Et la position d'Emmanuel Macron est assez floue sur le sujet, car lorsqu'il a utilisé, il a dit qu'il était à titre personnel contre, mais en revanche, dans la même interview, il a rajouté qu'en fait la France n'était pas prête. Donc là, on a une ambiguïté sur le sujet de se dire est-ce que la GPA est une pratique qui est mauvaise et qui est non éthique, ou est-ce qu'elle l'est? Donc ça, c'est vraiment la première question. Ensuite, deuxièmement, la reconnaissance des personnes nées par GPA en France, on a parlé parfois des fantômes de la République. Alors tout d'abord, les enfants nés par GPA à l'étranger ne sont pas des fantômes. Ils ont un état civil dans leur pays d'origine. Deuxièmement, les gens qui font ça, les Français qui font une GPA à l'étranger, sont dans l'illégalité. Donc on est en train de valider une pratique illégale en disant « Ah ben oui, mais ils ont fait ça, maintenant il faut les reconnaître. » Non, ce n'est pas ça. Il faut pénaliser les personnes qui ne respectent pas la loi sur le sujet. Enfin, nous, à Alliance Vita, ce qu'on dit, c'est un non au trafic de la maternité. Et on se rend bien compte, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fait qu'on ne reconnaissait pas à l'état civil certains enfants nés par GPA, on se rend bien compte que la position de la GPA, elle doit être internationale. Donc il faut pouvoir porter au niveau international cette dimension de la GPA.
Alors, c'est ce que dit François Fillon, donc il est pour la lutte contre la promotion de la GPA et pour une lutte internationale pour son abolition.
Tout à fait.
C'est le seul candidat qui en parle en l'occurrence. Hein, François Monnet, vous me corrigez si je me trompe.
Non, c'est tout à fait ça.
Avant qu'on fasse cette pause promise, Jean-Michel Punière, vous nous disiez en préparant l'émission que l'association ne s'était pas prononcée sur la GPA. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez vous prononcer à titre personnel, ou est-ce que vous voulez nous faire part des réflexions peut-être qui circulent dans les associations que vous êtes censé représenter?
Je ne veux pas justement induire de la confusion en prenant une position qui serait purement personnelle. En plus, j'écoute les échanges pour me faire un point de vue plus précis là-dessus, parce qu'en effet, il est question aussi de... Ça dépasse largement la question pour le coup de la discrimination ou de la parentalité. Il y a aussi la question de la marchandisation que vous évoquiez, tout ça. Donc je ne prends pas position de ce point de vue.
On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après pour aborder les autres thèmes de campagne, et ils sont nombreux.
Ok, pour habiter social, mettre côte à côte, c'est crucial. Celui qui rit et puis celui qui chiale. D'accord, il y ait partout la paix, que les prolos puissent être bien sapés, qu'on applique à tous le mot respect. Depuis le temps qu'on nous promet la pause autour d'un calumet, je dis quand est-ce qu'on s'y met. Depuis le temps qu'on se l'attente, la paix qu'on signe sous la tente, je dis bonjour à la salle d'attente. Je sors, on veut ma femme et mes enfants d'abord. 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 Ok, pour sauver la planète en danger et toutes les espèces protégées. Ok, pour on n'est pas des objets. Le respect des unes et des uns, les doléances de tous les frangins, les monologues du vagin. J'ai même respecté l'aliment, le moustachu et son argument, qui est toujours plein de bons sentiments.
s'y crie de plus en plus fort. C'est qu'il est peut-être pas le plus fort. Et s'il faut faire encore un effort, je sauve ma femme et mes enfants d'abord. 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 Faisons pas la guerre mais l'amour. Libérer Ingrid Betancourt.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc ce matin, spéciale présidentielle sur quelles valeurs communes dans la société française. Je vous rappelle que nous sommes avec Grégoire Jehan qui est responsable donc d'Alliance Vita 31, Jean-Michel Punière, psychologue et membre de l'association Contact 31, et le docteur Jean-Claude Madzon qui est neuropsychiatre à Toulouse, ainsi que François de Menesse, donc en première année de l'école de journalisme de Toulouse. Alors, il y a quelques autres grands sujets de société sur lesquels je voulais vous faire réagir. Le premier, alors j'ai envie de dire, là, c'est en France, ça cristallise encore plus les débats, mais mine de rien, c'est quand même un sujet qui est apparu dans l'élection présidentielle, entre autres beaucoup autour du candidat François Fillon, même s'il a fait des précisions sur ce sujet, c'est la question de l'IVG. Puisqu'il y a donc dans les programmes de campagne des mesures sur ce sujet, donc je vais les citer et puis je vais laisser réagir les uns les autres. Sur l'IVG, et vous compléterez François de Menet, donc Benoît Hamon est pour l'augmentation du nombre de centres de planification familiale. Emmanuel Macron s'est prononcé pour la défense de l'IVG et Nicolas Dupont-Aignan pour infléchir la politique de santé publique pour de meilleurs soins aux femmes, y compris en matière d'IVG. Donc on voit qu'il y a quelques candidats qui sont un petit peu offensifs sur ce sujet. Le plus offensif étant Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, qui lui, pour l'allongement du délai à 22 semaines et l'aspiration instrumentale jusqu'à 14 semaines et la suppression de la clause de conscience. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Grégoire Jehan, ouais. Puisque vous pouvez parler au nom de votre association, ce qui semble-t-il pas forcément le cas de Jean-Michel Punière, mais c'est que ça ne vous empêche pas d'intervenir.
Alors déjà, je crois qu'il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a une position très offensive.
Alors François, vous avez complété.
Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, il est pour l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Voilà.
Donc voilà, une loi assez fortement symbolique et qui est dans la continuité en fait du quinquennat qu'on a eu, où justement donc sur le site d'Alliance Vita sur la présidentielle 2017, il y a un bilan du sociétal du quinquennat sur l'ensemble des sujets et on se rend compte que lors de ces 5 années, énormément de lois ont été faites, des lois moi que je qualifierais d'idéologiques, des lois idéologiques sur l'IVG. On a eu récemment là le...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là justement, précisément?
Alors, justement, je vais donner des exemples. Donc on a eu dernièrement l'extension du délit d'entrave numérique à l'IVG, qui était déjà la deuxième extension du délit d'entrave à l'IVG.
Rappelez en un mot ce que c'est peut-être.
Alors il s'agit de pénaliser les sites qui dirait à une femme de ne pas forcément avorter en utilisant des informations biaisées, des opinions fausses. Et donc il y avait justement une problématique de constitution qui était: qu'est-ce qu'une information fausse et qu'est-ce qu'une opinion? Il était assez compliqué, et ce qui était aussi
En tout cas, l'extension du délit d'entrave a été votée, même si le Conseil constitutionnel a émis quelques réserves.
Tout à fait. Mais en revanche, c'était très fortement symbolique, puisque ça ne visait que les sites qui étaient considérés comme contre l'IVG, mais pas forcément ceux qui incitaient à l'IVG. Donc si vous avez des informations fausses, ce qui est le cas du site du gouvernement, qui justement, où vous avez une vidéo d'un spécialiste, qui est d'ailleurs connu pour son idéologie, qui nie le fait qu'il puisse y avoir des souffrances psychologiques faites aux femmes. Or, on l'a vu, 90% des IVG pour les femmes en France laissent des traces psychologiques difficiles à vivre, dans un sondage IFOP de 2016 commandé par Alliance Vita. Donc, c'est-à-dire que rien que ça, on avait quelque chose de faux, et on s'est bien rendu compte dans ce débat qu'on était dans de l'idéologie et pas lié au réel. Et juste un petit point, c'est-à-dire que justement à Alliance Vita, on a pu aussi se rendre compte de ça, car on a notre service d'écoute, on a un service d'écoute SOS bébé qui nous permet d'écouter les femmes qui se posent des questions sur l'IVG et donc de voir cette réalité de terrain.
Alors François Monnet, vous aviez une précision?
Oui, alors sur le délit d'entrave, on peut préciser que François Fillon et Marine Le Pen sont pour l'abroger, tout simplement. Et on pourrait aussi préciser que François Fillon, lui, ne veut pas remettre en cause l'IVG, mais se dit personnellement contre.
Voilà, on sait qu'il l'a dit au moment de la primaire, parce qu'il a été interrogé là-dessus. Peut-être qu'ils sont contre l'extension du délit d'entrave et pas sur le délit d'entrave complet.
Enfin, oui, voilà, exactement.
Grégoire Jean, juste avant de donner la parole aux autres, est-ce que vous pouvez préciser la position d'Alliance Vita? Parce que dès qu'on parle de l'IVG, il y a quand même aussi une crainte dans une grande partie de l'opinion publique, c'est de revoir en mise en cause le droit, ce droit. Quelle est la position d'Alliance Vita sur ce sujet?
Alors, la position d'Alliance Vita, c'est justement d'avoir une politique de santé publique, d'accompagnement des femmes. C'est-à-dire que le 200 000 IVG par an, c'est trop. Je vais citer le professeur Israël Nizan, qu'on ne peut pas qualifier justement d'être opposé à l'IVG, qui disait que le meilleur IVG, c'est celui qu'on arrive à éviter. Et en fait, en France, justement, on a une position dogmatique liée à l'IVG, où finalement, c'est une solution, c'est un droit fondamental. Or, justement, on a supprimé la notion de détresse. Je parlais de combat idéologique. On a supprimé cette notion de détresse, et normalement, la baisse du nombre d'IVG devrait être une politique de santé publique. On a un taux d'avortement par femme qui est deux fois plus élevé qu'en Allemagne. Pourquoi ?
Est-ce que les uns ou les autres voulaient prendre, non pas position, mais voulaient prendre la parole, docteur Madzen, peut-être sur ce sujet ?
Non, moi je n'ai pas d'opinion tranchée sur l'IVG, qui est une possibilité offerte aux femmes de décider elles-mêmes de ce qu'elles comptent faire de la grossesse dont elles sont porteuses. Bon, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le problème évidemment des médecins à qui on enlèverait le droit de conscience.
Donc ça vient de faire ou pas faire.
Voilà, oui, ça c'était. Non, mais dans plusieurs domaines, déjà le fait de pouvoir réfléchir et d'émettre un avis pour ne pas donner suite à un projet présenté par des patients, c'est tout de suite une espèce de levée de bouclier, comme quoi on a un parti pris, on a des situations qui ne seraient pas, fondées. C'est très mal d'avoir des crises de conscience.
Peut-être Jean-Michel Punière, pas forcément sur l'IVG, quoique vous pouvez évidemment parler soit au nom de l'association, soit à titre personnel, hein, mais sur cette histoire de clause de conscience, parce que ça a été un débat aussi au moment du mariage pour tous, où les maires ont réclamé la possibilité d'une clause de conscience. Est-ce que à l'époque, sur la loi Taubira, vous, c'est quelque chose qui vous avait interpellé, et qu'est-ce que vous pensez, en fait, de temps en temps, de ces interrogations que les chrétiens, puisqu'on est quand même dans une radio chrétienne, ont autour de cette clause de conscience?
Ah, pour moi, ça concerne. Enfin, bon, sur la question du mariage, hein, puisque vous y reveniez, quand des maires évoquaient cette idée de clause de conscience, en tant qu'officier d'état civil et d'un point de vue, de représentant, en effet, par rapport à ça, de l'État, pour nous, c'était évident qu'ils devaient suivre, que ça corresponde ou pas à leurs convictions, ce que la loi mettait en place, et pas qu'ils fassent en fonction de convictions personnelles. Ça touche à la question de la laïcité plus globalement, hein, c'est-à-dire chacun, bien sûr, peut croire, et c'est important que chacun ait la possibilité.
Un maire peut refuser. Demander à son adjoint de le faire, non? C'est quand même une possibilité.
Une possibilité.
Un maire peut refuser, oui, et demander à son adjoint de le faire. Il peut faire valoir justement une clause de conscience. On ne peut pas obliger les gens, la loi ne peut pas obliger à faire des choses que la conscience vous...
La conscience me fait un quoi? La conscience empêcherait de marier un couple homosexuel? Je ne comprends pas bien.
D'accord. Sur l'IVG, vous voulez dire quelque chose ou pas spécialement?
Non, pas spécialement.
Alors on avance et donc on va parler du genre avant qu'on parle de la fin de vie peut-être pour finir cette émission. Donc la théorie du genre, et puis vous nous expliquerez ce que c'est, même si je peux un tout petit peu vous y aider parce qu'on a fait quand même 2-3 émissions sur ce sujet. Il n'y a pas grand-chose, sauf erreur de ma part, vous m'aiderez François Noé dans les programmes des candidats. Benoît Hamon qui est pour faciliter le changement du sexe par une simple déclaration à l'officier d'état civil, donc ça on imagine que c'est pour les personnes donc, qui veulent changer d'identité sexuelle dans leur état civil. On imagine que ça concerne entre autres les personnes transgenres, et je sais qu'autour de ce plateau vous avez quelques expériences d'amitié ou d'accompagnement de ces personnes, et Nicolas Dupont-Aignan donc, qui est pour renforcer la neutralité idéologique des manuels scolaires. Alors, qui veut commencer sur ce sujet? Jean-Michel Punière, qu'est-ce que vous voulez nous dire autour de cette théorie du genre? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux prises de position?
Alors moi, je n'emploie pas le terme de théorie du genre, parce que pour moi, ce n'est pas une théorie, il y a eu des recherches là-dessus. Ce qu'on appelle le genre, c'est le sexe social, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui serait culturel dans le fait d'être une femme ou un homme dans notre société. Donc rien à voir bien sûr avec le fait qu'à la naissance, selon les organes génitaux visibles, on assigne le fait qu'on soit masculin ou féminin. Mais par la suite, ce sont toutes les choses diverses et variées qui... Bah, je ne sais pas, par exemple, avant même la naissance, la chambre du petit garçon va être décorée très différemment de celle de la petite fille, avec des couleurs bleues, alors que la petite fille sera rose. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec des personnes donc, qui s'appelaient les Merveilleuses, là, qui étaient au moment des débats sur le mariage pour tous sur la place du Capitole. Et justement, on avait discuté de ça, et alors elle me disait, elle me faisait part de tout un tas de craintes autour de d'expériences qu'il y aurait eu autour du genre, tout ça. Bon, et moi, ça correspondait à aucune représentation concrète de ce que j'avais, parce que c'est vrai que quand on aborde ces questions de genre dans l'éducation, notamment à la vie affective et sexuelle dans des établissements scolaires, par exemple, et je connais plusieurs associations qui l'abordent. Vraiment, on est plutôt dans le fait de réfléchir ensemble sur justement ces questions sans a priori, quoi. Et alors, c'est ce qu'on avait fait avec cette personne des Merveilleuses. Et c'est vrai qu'on, justement, on était d'accord finalement. C'est-à-dire que elle disait, je lui disais, est-ce que pour vous, le fait que on dise que le bleu c'est la couleur des garçons, le rose c'est la couleur des filles, est-ce que c'est quelque chose comme ça de naturel ou culturel, tout ça? Alors, on me dit, et est-ce que ça a du sens? Alors, ben, non, pas particulièrement, elle me disait. Donc, et c'est plutôt culturel. Voilà, je pense que c'est intéressant d'en discuter vraiment profondément plutôt que de faire comme si on partageait même représentation.
Mais si je peux me permettre juste une précision, peut-être que vous le ferez les uns les autres, hein, mais ce que j'ai compris de la théorie du genre, c'est que en fait, c'est de dire que scientifiquement, en fait, il y a une part de la représentation sociale qui induit en fait, je sais pas dire le prolongement du biologique. Mm-hmm. Mais l'impression qu'on peut avoir parfois, c'est que certaines associations vont jusqu'à sauter le pas de dire que justement la sexualité ne serait qu'une construction sociale, en fait, et il n'y aurait pas le biologique. C'est un peu le même débat que tout à l'heure. Est-ce que vous sautez ce pas, vous, ou est-ce que...
Moi, j'ai jamais entendu personne dire que nier le fait qu'il y ait des organes génitaux dits féminins ou masculins. Enfin, à la naissance, il y a des personnes qui naissent intersexes. Bon, c'est un fait naturel. Mais donc, pour qui, c'est pas si évident que ça. Il y a aussi, moi, en fait, je crois que toutes ces questions qu'on aborde, ça dépend de quel point de vue on les regarde. C'est-à-dire, le point de vue d'où on les regarde. Et je voudrais faire un peu une métaphore avec... C'est comme si on regardait les choses avec les lunettes de la différence ou les lunettes de la diversité. Donc avant, moi, je regardais les choses avec les lunettes de la différence, comme c'est le cas en général dans notre culture. C'est-à-dire, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les homos, les hétéros, voilà. Et on regarde les choses comme ça, d'une façon toujours binaire, et finalement, assez potentiellement qui amène une opposition et un conflit. Si on regarde les choses plutôt dans la diversité, on se rend compte qu'il y a des personnes, voilà, même d'un point de vue naturel, qui naissent avec des sexes plus masculin ou plus féminin, d'autres qui sont entre les deux, ces personnes intersexes, qui tout d'un coup, c'est sur le milieu d'un continuum. Il y a aussi après la question du genre, c'est-à-dire le fait d'exprimer plus ou moins de ce qu'on appelle du féminin ou du masculin dans la vie de tous les jours. Et on voit bien que, en effet, il y a des personnes qui correspondent tout à fait à ce que serait la virilité chez un garçon, d'autres, ce qu'on appellerait la féminité chez une fille, puis des personnes qui vont être entre les deux et qui sont généralement très rejetées dans notre société. Il y a énormément de discrimination, notamment à l'adolescence, de tous ceux qui correspondent pas à la norme, à ces normes que je qualifierais donc normes de genre et non pas de théorie, mais et qui ce qu'on appelle la virilité chez un homme. Qu'est-ce que c'est la virilité? C'est très difficile à définir.
Docteur Jean-Claude Madzone, et puis après je vous donne la parole Grégoire Jean sur ce que vient de dire Jean-Michel Pinière.
Non, ce qui me trouble toujours quand on aborde les problèmes de genre, c'est qu'il se part d'une espèce de connotation scientifique à des expériences avec des travaux qui ont été faits. Et quand on les lit, non seulement la vacuité est infernale, mais de surcroît, c'est falsifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce que les situations éducatives vont générer chez un enfant en fonction de l'âge qu'il traverse. Et jusqu'à encore 30, 40 ans, on est capable d'évoluer psychiquement et personnellement. Donc ça me trouble. Et alors en plus qu'on essaye de penser qu'avec un processus éducatif, on va restaurer la diversité, le respect de la diversité, l'altérité, c'est une vue, comment dire, des réels, des situations. Enfin, ça me paraît inutile d'ailleurs de débattre là-dessus.
Mais inutile, voilà. Pourtant, c'est quand même un débat dans la société française. Oui, c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a, comment dire, le genre, en fait, ne fait pas débat d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une part dans la construction sociale qui joue.
En quoi cela va-t-il gêner qu'un couple X va attendre plutôt un garçon plutôt qu'une fille? C'est la règle, c'est pratiquement culturel, mais c'est affectif, c'est familial, c'est lié à des expériences personnelles. Très bien, et alors, qu'est-ce que ça va changer ou, en quelque sorte, générée chez l'enfant qui est soumis à cette culture-là.
Mais alors, vous nous disiez en préparant l'émission que vous aviez accompagné des personnes qui étaient transgenres, parce que souvent, la question c'est...
Non, je ne parle pas de transgenres, parce que ce sont des transsexuels authentiques. C'est-à-dire des gens qui se sont fait opérer, des femmes qui se sont fait opérer, qui arrivent dans le SECOS, au SECOS, ou au centre de stérilité, en tant que changement d'état civil, ce sont des hommes, donc ils nous disent, nous sommes des hommes stériles, donc nous avons droit à une insémination avec donneur. Et ça, on les reçoit, évidemment. On ne va pas laisser ces gens sans réponse et sans examen de leur demande. Et là, les choses que l'on observe et que l'on voit sont souvent extrêmement difficiles, témoignent de la difficulté du parcours de ces patients et qu'effectivement, on ne peut pas la plupart du temps répondre à leur attente. Enfin, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais permis que ces couples-là accèdent en quelque sorte à une procréation assistée. D'autant que ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas simplement l'homme transgenre, transsexuel, qui est en difficulté, c'est que sa femme aussi est en grande difficulté. Et quand elle perçoit au travail du travail que l'on peut initier le fait qu'au fond, elle n'est pas totalement suiveuse de la décision du mari, les choses s'arrêtent à peu près heureusement. Quelquefois, c'est beaucoup plus conflictuel, hein, c'est clair.
Grégoire Jean, sur cette question.
Oui, c'est juste, je réagissais à la comparaison qui a été faite avec les lunettes de la diversité, les lunettes de la différence. Il me semble que justement, lorsque vous disiez que les lunettes de la différence, c'est ce qui faisait voir les gens noirs, blancs, jaunes, et en même temps, moi j'ai justement l'impression que le concept de genre poussé jusqu'au bout, oui. On a cette notion de ségrégation dans la société, alors que moi personnellement, quand je vois le monde, je vois des hommes et des femmes. Je ne vois pas des orientations sexuelles. Et en fait, justement, avec cette notion de genre qui est mis dedans, on amène de la confusion, on ségrègue dans la société, on s'est rendu compte que d'ailleurs, les sigles les LGBT, qui veut dire lesbienne, gay, bi, trans, maintenant a rajouté aussi un Q pour queer et parfois pour I, jusqu'à un I pour indéterminé. Et on se dit, mais finalement, à la fin, il va y avoir autant d'identités que de personnes.
Attends, c'est ce que vivent certaines personnes, en tout cas, c'est ce que disent ces associations.
Oui, mais la différence, c'est qu'on est d'abord hommes et femmes. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut définir.
Donc sur le genre, sur les propositions des candidats, quelle est votre réaction ? C'est globalement quand même assez absent.
Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'école d'aborder forcément ces sujets-là, et surtout dans quel but, parce que c'est aussi le but qui me dérange. C'est pour ça qu'il y a des notions d'idéologie dedans. Je sais que le terme idéologie du genre a pu choquer, mais c'est surtout cette notion, il y a une notion d'un but, et du coup, quand il y a un but, quand on utilise une théorie pour un but, j'appelle ça une idéologie.
Alors l'émission touche à sa fin, il y a plein d'autres sujets donc j'aurais aimé qu'on parle, entre autres ou moins de la fin de vie et du handicap, me disant que peut-être au moins sur la question du handicap on aurait pu tomber d'accord. Je préciserai juste pour finir sur la fin de vie très rapidement les positions des uns et des autres candidats, parce que ça peut inciter nos auditeurs à se plonger dans les programmes des candidats, et vous allez m'aider, François de Monet. C'est un sujet en fait sur lequel les clivages ne sont pas classiques. Entre autres, j'ai noté que Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière était contre le suicide assisté. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite revue sur la fin de vie pour finir cette émission ?
Oui, alors d'abord je rappellerai qu'actuellement la loi de 2016 instaure un droit à la sédation profonde jusqu'au décès pour les malades en phase terminale et un respect des directives contre l'acharnement thérapeutique, mais n'autorise pas donc l'euthanasie, le geste médical destiné à causer la mort, ni le suicide assisté réalisé par le patient lui-même. Alors les candidats sont pas tous d'accord sur la question. Jean-Luc Mélenchon souhaite inscrire l'euthanasie dans la Constitution. Monsieur Poutou et Monsieur Hamon souhaitent l'autoriser. Jacques Cheminade, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron souhaitent rester à la loi Leonetti actuelle. Et d'autres candidats n'en parlent pas du tout, comme François Asselineau ou Jean Lassalle. Et enfin, Nicolas Dupont-Aignan souhaite l'interdire tout simplement, comme Madame Arthaud.
Voilà, juste, on finit l'émission, mais j'imagine, je vais dire ce que je crois, vous vouliez parler des soins palliatifs, c'est ça ?
Oui, mais c'est aussi pour dire justement que on a utilisé le terme d'euthanasie justement comme un acte médical. Ça peut être l'acte ou l'absence d'acte, et c'est l'intention qui compte, et c'est pour ça que la loi actuelle Claeys-Leonetti est très ambiguë sur le sujet, sur la sédation profonde et continue. Et je vous invite à aller voir du coup le site présidentiel 2017 où c'est assez bien expliqué.
Voilà, merci beaucoup à nos invités, merci particulièrement à Jean-Michel Punière d'être venu ce matin donc à cette antenne, d'avoir d'avoir eu cette audace. Et puis merci aux uns et aux autres d'avoir fait en sorte quand même que ce débat reste courtois, même si on le sent derrière que les clivages sont évidemment extrêmement profonds. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Et merci, pardon, à le JT, l'école de journalisme de Toulouse, de partenaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.